incroyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Et c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouf, vous êtes un salaud.
Mickaël Guigou, c'est à lui de faire le jeu maintenant, Mickaël. Allez, fais-nous rêver, fais du dribble, fais du dribble.
Qui te fait transpirer sur Radio.
Et salut à toutes et à tous. Qui dit lundi dit nouvelle émission des sportifs. Et oui, votre émission préférée de sport sur Brest. Et c'est parti pour une heure à parler de sport. Et je suis pas seule, évidemment. Dans les studios, on retrouve Pilou à la technique qui gère tout le reste.
Salut Inès, salut tout le monde.
Et puis on retrouve aussi demain. Salut demain.
Salut Inès, salut. Pierre-Louis.
Et de quoi va parler ta chronique géopolitique aujourd'hui?
Alors le sujet, ce sera le sport doit-il être politisé, et on parlera de Corée du Nord, Japon, Russie.
Et bien tout ça, ce sera après le tour des stades. On écoutera aussi une interview, Pilou.
Ouais, si j'allume pas le bon micro, c'est sûr que ça va moins bien marcher. Ouais, on va écouter une interview de Gaëlle Etienne, qui est, figurez-vous, la seule et l'unique sexologue du sport en France.
Et bien ce sera pareil hein, en deuxième partie d'émission. Et puis évidemment Flavie nous rejoindra à la fin de cette heure à parler sport pour un nouveau quiz. Mais on perd pas de temps, on commence tout de suite avec du foot.
C'est un battement de jambes sur le beat de flanc.
Alors c'est la trêve internationale, mais ça n'empêche qu'on peut quand même parler de foot, et notamment du France-Allemagne de ce week-end. Voilà les gars, je vous lance là-dessus, maintenant c'est à vous de jouer.
Ouais, bah à notre grand désespoir, toujours pas de Bretons en équipe de France, et franchement, peut-être que le petit père Dédé a finalement regretté, on va en parler un peu plus en détail demain, mais on n'arrête pas de le dire, on est chauvin évidemment, on est à Brest, Pierre Lesmélou aurait peut-être fait du bien dans une équipe comme ça, qui de toute façon a pris cher dès le début. Hein. But le plus rapide encaissé de toute l'histoire de l'équipe de France, 2 passes. Et encore, il y en a une, c'est vraiment pour faire le coup d'envoi. But au bout de 7 secondes, but exceptionnel hein, après de Florian Wirtz. Il ne faut pas lui retirer ça. Il met une frappe de bâtard hein, à la Pavard quasiment. Sauf que là, c'est pas une demi-volée, mais incroyable. Et après, une fois que tu as pris ça dans ton match, je pense que c'est compliqué de réussir à faire mieux, à ressortir la tête de l'eau, etc. Mais justement, c'est un peu ce qu'on attend aussi d'une équipe qui se prépare pour aller à un euro, à une grande compétition, d'avoir un peu de caractère. Et là, franchement, on n'a rien vu. Enfin, je sais pas demain, mais en tout cas, moi, j'ai absolument rien vu là-dessus. Aucun caractère. Rien du tout, aucun esprit de révolte finalement.
Après, déjà c'est une bonne prestation de l'Allemagne, hein, faut le dire et le rappeler. Je pense qu'ils étaient en totale gestion avec leur milieu de terrain, surtout avec Toni Kroos. J'ai l'impression qu'il était dans son canapé, dans son salon tranquillement.
Ah ouais, lui il fait son retour pépère.
Hein. Non, c'était vraiment le milieu de terrain là, Gundogan et Andrić, mais. Aussi, c'est l'absence d'Antoine Griezmann. Hein. On n'en parle pas assez, mais depuis que Deschamps est sélectionneur, Griezmann a quasiment fait tous les matchs titulaires. Donc, ça veut dire que le mec, il sert pas, il est essentiel. Donc, moi, je pense qu'il y a de ça. Et en face, le but à la 6e seconde, ça les a mis d'entrée KO. Tu peux pas te permettre ce genre d'errance au bout de 7 secondes. Après, c'est le foot de haut niveau. Après, ils ont essayé de faire des bonnes choses avec Mbappé et surtout Dembélé en première mi-temps. Mais c'est souvent c'est pas collectif en fait. C'est souvent
c'est quand même souvent la même chose. On passe la balle sur le côté et puis on attend qu'on ait un des feux follets qui dribble 3 joueurs. Quoi, tu vois.
C'est ça. Donc ce sera après à Didier Deschamps de trouver des solutions et que Griezmann revienne en bonne santé et en forme pour l'Euro. Mais sinon, l'Allemagne mérite amplement sa victoire. Il y a même pas, il y a pas photo. C'était plus fort, c'est juste plus fort.
Mais vraiment, enfin, moi c'est pour ça que je trouve ça fou et que je suis un peu dégoûté qu'il ait pas appelé Pierre Lesmelou. Parce qu'on dit, c'est impossible de remplacer Griezmann. Il y a qu'un joueur comme lui, il y a que lui qui peut se battre au milieu de terrain, arriver à finir dans la surface, mettre des buts, etc. Et être créatif. Et en fait, le seul autre joueur qu'on a comme ça en France, bah mine de rien, dur à dire, mais c'est un Brestois, il s'appelle Pierre Lesmelou, quoi.
Après, ça va être dur de l'appeler parce qu'il va prendre en compte le vécu européen.
Ouais, bien sûr.
Pierre Lesmelou, là, malheureusement pas. Et il avait remplacé Griezmann par Matteo Guendouzi. Donc bon, au niveau des profils, ils sont totalement disparates. Mais après, parce que Guendouzi avait déjà le vécu en bleu, déjà des matchs, donc il a rappelé quelqu'un qui connaissait la boutique, mais sinon, en état actuel des choses, il n'allait jamais appeler ou quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds en équipe de France, d'autant plus que là, ça ressemble à la composition de départ de l'Euro. Hein. Il y a quelques noms prêts, peut-être Mike Maignan.
Ouais, Mike Maignan qui revenait de blessure, ouais, hein, qui sortait un peu ouais, de...
Donc,
c'était compliqué pour lui.
Giroud en attaque, mais sinon... Je vois pas. Et Griezmann, bien sûr.
Mais c'est sûr qu'objectivement, vaut mieux faire jouer Warren Zaïre-Emery, qui a 17 piges, et qui est clairement le futur de l'équipe de France, que d'appeler Pierre Lesmelou, qui en a, je sais pas,
32.
Bien sûr. Mais ceci dit, sur ce milieu de terrain, je trouve que c'est pas du tout complémentaire, en fait. Il y a encore plein de trucs à travailler, mais même en termes de profil, avoir Tchouaméni, Rabiot, Zaïre-Emery, bon, bah, ouais, c'est Tu colles trois joueurs qui sont quasiment pareils. C'est gros récupérateur, avec une capacité un peu de percussion, mais pas tellement.
C'est la capacité de gagner des mètres. Bah,
ouais,
plus,
mais avec un manque de créativité, je trouve, dans la passe, etc. Son poste, c'est très bien ce qu'il fait, d'autant plus pour son âge. Mais on n'a personne dans ce milieu de terrain qui est capable, par une passe, par une vision de jeu, d'envoyer un bon ballon à la Toni Kroos. En fait, il nous manquait un Toni Kroos dans ce milieu de terrain.
Le seul qui en était capable, il est suspendu, hein, Paul Pogba, sinon le reste.
Ouais, bah on va pas revenir sur cette suspension.
Si tu nous écoutes, Paul, désolé.
Bon, en tout cas, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que clairement, ne vous faites pas ce match en replay. Si vous êtes fan de l'équipe de France, vous allez un peu souffrir. On espère mieux, bien mieux demain à 21h contre le Chili. Peut-être que ça va un petit peu changer aussi dans la rotation, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais bon, Jules Koundé, latéral, il serait peut-être temps de mettre Klaus titulaire, histoire d'avoir un vrai latéral de métier.
Après, j'ai remarqué qu'en France, on est coutumier du fait de mettre des centraux à droite. J'écoutais Lilian Thuram sur France Culture, il faisait sur 5 épisodes, il l'a présenté en tant que défenseur central et latéral droit, mais il a excellé en équipe de France, en Coupe du Monde, à droite, Pavard, défenseur central, donc latéral droit, Koundé à droite, et il n'y a pas forcément des latéraux qui sortent du lot, quoi. Je trouve qu'on est un peu coutumier de mettre des défenseurs centraux à droite et tant que défensivement ça fonctionne, voilà. Mais sinon.
C'est que défensivement ça fonctionne à peu près, mais par contre offensivement ça apporte à peu près rien, sauf quand t'as un Thuram qui met un doublé en Coupe du Monde, résultat c'est les deux seuls buts qu'il met dans sa carrière en équipe de France. Donc ça arrive pas souvent. Et moi je trouve que c'est offensivement, paradoxalement, qu'on est assez pauvre. Quand là on voit le banc des remplaçants, moi je trouve pas ça incroyable, hein. Randal Kolo Muani, Moussa Diaby et on a qui d'autre qui peut aller devant, c'est quasiment, enfin Olivier Giroud, c'est pas le banc qui fait rêver comparé au nombre incalculable de très bons joueurs,
de talent, il y a Barcola
de talent qu'on a, mais on va y revenir d'ailleurs, il y en a beaucoup qui jouaient soit avec les espoirs, soit même carrément avec les U19.
C'est vrai.
Si on fait un petit tour d'ailleurs chez les Espoirs là, qui jouaient eux contre la Côte d'Ivoire, c'était la veille, si je dis pas de bêtises, donc vendredi, avec une victoire à l'arrache, mais comme on aime, victoire 3-2, avec là pour le coup il y a eu une équipe de malades, hein, chez les Espoirs, à saluer d'ailleurs. Le gars qui nous fait gagner, il s'appelle Désiré Doué et c'est un Rennais. On peut le dire.
Les Bretons sont partout.
il reste qu'un espoir pour l'instant, les petits cocos. En tout cas, ça c'est une vraie belle victoire pour les espoirs de Thierry Henry, avec une super équipe. Hein. Non, Barcola qui se blesse quasiment direct. Bon, après, a priori, il n'avait pas grand-chose. Mais il y a une super équipe, non, hein, avec Eli Wahi, Désiré Doué, Akliouche, Kefren Thuram, Kone. C'est un truc de malade, le réservoir qu'il y a.
Bah, rien que déjà, Barcola et Eli Wahi, ils jouent déjà avec des champions. Donc, si ça continue comme ça, après, bien évidemment, Deschamps, il a ses lieutenants, mais si ça continue comme ça, ils viendront toquer rapidement.
Ouais, bah quand tu vois que sur le banc, t'as Arnaud Kalimuendo, Ryan Cherki qui sort du banc, etc., c'est pas mal. Et puis, bah, il n'est pas rentré en jeu, mais on a un Brestois aussi, Bradley Loco,
ouais.
Et ouais, quand on parle de latéraux, justement, donc, vu qu'on est un peu en galère.
Et il peut faire la différence, après, ça a lieu de s'accrocher, et Brest fait une très bonne saison, donc il faut que Brest aille chercher l'Europe. Après, on va voir si Deschamps, il pourra les appeler.
Et puis pour terminer rapidement sur le foot et les équipes de France masculines, un petit mot des U19 qui se sont imposés 1-0 contre les Pays-Bas, but sur pénalty du capitaine d'un soir d'ailleurs, parce qu'il est quasiment jamais appelé avec les U19, il est beaucoup trop bon pour ça, Matistel, oui. Ancien Rennais, avançant du Bayern de Munich, 18 ans à peine, qui jouait exceptionnellement avec les U19 parce que c'était un match qui comptait pour la qualification pour l'Euro, et qui faisait la paire avec un autre Breton, d'ailleurs, Eli Croupy Junior, le Lorientais. Voilà, c'était ça la doublette d'attaque presque 100% bretonne.
Et puis, je crois que tu voulais me faire un petit focus sur les féminines aussi. Je crois qu'elles ont gagné ce week-end.
Bah ouais, quand il y a une victoire, on peut la saluer. On parle de 3e division. Donc, les filles du Stade Brestois jouent à domicile contre Angers, mais pas le SCO, la Croix-Blanche d'Angers, ça s'appelle. Un petit club annexe, mais gros club féminin, en tout cas du côté du Maine-et-Loire. Victoire 2-0, mais alors ça, c'est de la victoire à l'arrache. Hein. Je vous le dis, j'ai lu le résumé. Premier but, ouverture du score 1-0 sur un centre tir totalement foireux qui finit dans les buts, voilà, bien heureux. Et le 2-0, c'est à la 90e plus 5 que ça se passe. Bon, a priori, les Brestois ont quand même largement dominé le match, mais on va dire que la concrétisation est heureuse.
On espère qu'elle continue comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Pilou. Et demain, pour ce Point Foot, je vous propose qu'on souffle un peu en musique avant de faire le tour des stades. T'as choisi quoi comme musique, Pilou, stock, t'en es chargé?
Eh ben, on va aller chiller un peu avec Cool Sky et son titre « I am worthy ».
Feel like.
Wow, Rick.
Look, you know how this thing go. I held on too long, I let the pain go. Whoever I hang around, gon' have the same goals. Cause you either sink or float when in the same boat. No chains, no baby, I ain't chained, no. Everything I rock, designer, even plain clothes. If it's on me, that mean it's the shit. I made Walmart look good on the kid. Hey, sometimes I don't love myself. So I try finding love out in someone else. Infectious. Same walls that protected me was blocking my blessings. It's time to watch the old me die like past life progression. Damn. And I ain't trying to get too deep, but I could drop gems, had these chains on me. If you like me and want what the eyes can't see, breathe in deep, repeat after me, please. I am worthy. I never let a bad vibe deter me. If I ever take a loss, I keep working. My affirmations gon' reassure me. I am worthy. I never let nobody ever hurt me. I am not bound to my insecurities. I don't need validation, I assure me. Yeah, we got issues we be burying deep. Months worth of pain that we carry for weeks. Nightmares every time I get carried to sleep. Excuse me while I air up my grief. Please, please pardon my vent. Letting go is the mission. This divine intervention. I ain't like my position. I mean my outlook on life. Now I'm changing the systems of how I choose to think. Now the sky's the limit. Yeah, your vibe has been different. I don't like your intentions. My alignment has shifted. All my blocks have been lifted. Now my mind's in submission. It's about time that I get it. It's about time that I win it. And my mind is no limits. Damn. And I ain't trying to get too deep, but I got pain I done buried for weeks. If you like me and want what the eyes can't see, breathe in deep.
ever heard me. I am not bound to my insecurities. I don't need validation, I assure me. I am worthy. I never let a bad vibe deter me. If I ever take a loss, I keep working. My affirmations gon' reassure me. I am.
Et vous écoutez toujours Les Sportifs du lundi sur Radio U. On est encore ensemble pendant une heure. Et c'est parti pour le tour des stades. Et on ne change pas un programme qui marche. Du coup, je vous propose de commencer par du rugby. Le championnat de Fédéral 3, eh bien, il a vu sa 17e journée se dérouler ce week-end. Bruz a battu Plabennec 55-12. Alors, j'aurais bien aimé vous dire pourquoi Plabennec a été battu, mais j'ai pu trouver aucun compte rendu sur Internet. À mon avis, c'est parce que c'est catastrophique, donc heureusement qu'on n'en sait pas plus.
Ou parce que les correspondants locaux de sport sont très mal payés et que du coup on n'arrive plus à en trouver.
Je pense aussi.
Et que peut-être que Bruce Plabennec ça vend pas du rêve.
Bru, par contre.
Bru. Ok. On passe à la Fédérale 2, c'est une victoire de Saint-Malo sur Plouzané 22-17. Le résultat est cruel, on s'est vu gagner, se désoler le coach finistérien Adrien Leroy. Et de l'autre côté, bah, pour Jordi Rouge, l'entraîneur du 15 Corsaire, Plouzané méritait la victoire autant que nous. Donc voilà, pareil, hein, côté D2, le RC Van n'a pas joué. Par contre, rendez-vous vendredi pour une rencontre face à Colomiers. Et on finit avec une bonne nouvelle. Tout à l'heure, on disait que les Bretons étaient partout. Eh bien, Nolan Le Garec, natif du Morbihan et joueur de la Division 1 du 15 de France, a donné la victoire à son équipe parisienne, le Racing 92, 23-21, donc c'était très serré, face à Castres. Il est l'auteur de 3 pénalités et de 2 transformations de Wadé et Netuvi. Voilà, si vous voulez savoir. Et puis, ça termine notre point rugby. Je vous propose qu'on passe au hand. Avec toi, Pilou, je pense que tu nous as prévu des petites infos et notamment un week-end un peu désastreux du côté des Brestoises.
Ouh là là, effectivement, c'est la grosse soupe à la grimace, vous vous rendez compte. Fin d'invincibilité pour Brest. Et qu'est-ce qu'elle fait mal, cette fin d'invincibilité, après 21 matchs du coup consécutifs sans défaite. Et ben là, c'est une bonne claque à domicile, hein, comprise hier d'ailleurs, les filles du BBH, défaite 26-31 sur son propre parquet contre Ferencváros. Bon, après, faut replacer les choses dans leur contexte, hein. Ferencváros, je sais pas si vous êtes au courant, c'est quand même les finalistes de la dernière Ligue des Champions. Donc voilà, quand on se tape un barrage de play-off, bah ouais, c'est ça, c'est que bon, on tire quand même un gros poisson. Ceci dit, il y avait une victoire à l'aller 30-28, donc tout le monde se disait, bah c'est bon, le BBH, c'est parti, ça y est, c'est lancé, c'est enfin leur année. Et ben non. Grosse toise à la maison. Alors, à saluer quand même la performance de la gardienne Yanou Rick, je crois qu'on prononce comme ça, mais je suis pas vraiment sûr, je vous avoue, qui fait vraiment une grosse perf dans les buts avec 14 arrêts sur 36 tirs. Je sais pas si on se rend compte à ce niveau-là au handball à quel point la performance est énorme. Mais bon, toujours est-il que et ben voilà, Brest est lamentablement sorti de cette Ligue des Champions. C'est vraiment dommage pour les Brestoises. Ceci dit, il leur reste quand même à jouer le championnat de France, hein, sont toujours invaincus. Il leur reste à jouer la Coupe de France. Attention, samedi prochain, à l'Arena, on reçoit qui ? Nos meilleurs ennemis, les Messines. Et là, c'est là-dessus que se joue une saison quand même de handball pour le BBH. Donc, un petit conseil, chopez vos places, allez supporter les filles et on essaie de gagner contre Metz pour quand même avoir une breloque à se mettre autour du cou en fin de saison. Sachant que si vous êtes passé à côté de l'actu, on va perdre beaucoup, beaucoup de joueuses. En tout cas, Cléopâtre d'Arles, ça y est, c'est sûr, elle ne re-signera pas. Y a encore des discussions pour Alicia Toublanc. Enfin voilà, il va y avoir un gros turnover du côté du BBH. Un petit mot quand même sur le handball féminin, je vous en parle pas souvent, mais là c'est à saluer. J'oublie souvent nos Nantaises, voilà, qui sont quand même une équipe assez redoutable du championnat de France, mais aussi à l'échelle européenne. Elles jouent la C2, la petite voilà, coupe d'Europe. Et alors là, elles sont passées haut la main. Je n'ai même pas pris la peine de noter les scores tellement il n'y a pas eu match. Mais elles se retrouvent dans le Final Four de cette Ligue européenne. Et elles joueront donc les 11 et 12 mai, demi-finale et si possible la finale. Voilà, si elles s'en sortent bien. On passe du côté des mecs. On va commencer par Cesson qui avait un match de championnat avec un adversaire de son championnat, j'ai envie de vous dire, puisque c'était le 11e contre le 12e. Cesson qui se déplaçait à Chartres et ils n'ont fait qu'une bouchée de la... C'est quoi, la cathédrale, la basilique de Chartres? Enfin bref, en tout cas, ils sont éclatés là-bas. Ils ont gagné 39-31. Et alors, pour nos amis les Nantais, eux, ils se tapaient une semaine assez marrante parce qu'ils avaient deux matchs contre Toulouse, le jeudi et le dimanche. Ouais, c'est ça, je vous dis pas de bêtises. Le jeudi, ils jouaient en Coupe de France contre Toulouse. Toulouse, faut savoir que dans le championnat de France, en gros, il y a trois ogres, le PSG, Montpellier, Nantes. Et après, il y a le poil à gratter, c'est toujours Toulouse qui arrive à foutre la merde partout où il passe. Mais pour le coup, ça n'a pas marché puisque les Nantais, sur le terrain de Toulouse, se sont imposés de 2 buts 26-28 en Coupe de France. Et donc, on aura bien une finale dont on a l'habitude maintenant, ce sera le 20 avril, Nantes-PSG. Et puis c'était donc rematch le dimanche et pour le coup c'est les Nantais qui accueillaient les Toulousains. Alors là il n'y a pas eu photo, 40-30, merci, au revoir, restez à votre quatrième place les amis toulousains. Et je signale quand même à toutes fins utiles que les Nantais sont eux aussi bien engagés dans leur C2, la petite Coupe d'Europe, puisqu'ils sont en quart de finale. Voilà pour le hand.
Merci beaucoup Pilou, comme chaque lundi on vous tient au courant des actualité andé. On passe au basket et à la ligue féminine avec le LBB. Bien, la marche était trop haute hein, pour les Landerniennes qui se sont logiquement inclinées hier face à Villeneuve-d'Ascq 75-90. Et oui, le leader du championnat de France. Les Finistériennes se présentaient en sous-effectif en plus hein, avec les absences de leur capitaine Virginie Brémond et de leur pivot Evelyne Akator. Cela ne les a pas empêchés hein, pourtant de tenir face à leurs hôtes. On n'a pas démérité car on savait que le troisième quart-temps serait très compliqué, mais c'est bien ce qu'ont fait les filles, à l'exception des 90 points encaissés. Là, il va falloir qu'on repasse un cap à la baisse en vue des playdowns, souligné l'entraîneur Wani Mugunguzi. Puis on termine avec le hockey sur glace. Mauvaise semaine hein, pour nos Albatros qui se sont vus de nouveau inclinés samedi soir face à Valenciennes après avoir subi deux défaites en déplacement contre Morzine et Montblanc. Pour Brest, qui est quand même assuré, heureusement, de rester en D1, le challenge était de se maintenir à la première place. Et c'est terminé pour le tour des stades. Tout de suite, je vous propose qu'on passe à la chronique géopolitique du jour avec demain.
C'est fini. L'Allemagne remporte la finale de la Coupe du Monde. Bravo tout de même à cette équipe de la République fédérale allemande.
Alors, le sport doit-il être politisé? Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps. Donc, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et il y avait un match qui aurait dû se dérouler, qui était la Corée du Nord et le Japon. Malheureusement, ça a été annulé. Et en cherchant les explications, il n'y avait pas d'explication. Et ça, c'était le gros problème. Donc, il fallait fouiller, il fallait creuser. Donc, en recherchant, la Corée du Nord et le Japon ont un passif que j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Et ce passif ne date pas d'hier. Donc, ça a commencé au départ des années 1910 à 1945. La Corée du Nord était occupée par le Japon. Ensuite, vous avez donc la guerre de Corée en 1953 qui a fait des ravages parce que la Corée du Nord, donc à ce moment-là, donc elle venait d'être créée donc en 1948, espionnait son voisin, donc la Corée du Sud, et voulait aussi espionner donc le Japon. Et vous avez donc dans les années 80 l'affaire des enlèvements. Il faut savoir que la Corée du Nord avait enlevé 13 selon eux officiellement, et elle avait enlevé 13 personnes, 13 citoyens japonais. Donc la raison était donc avancée par Pyongyang, le fait de pouvoir parler japonais, donc pouvoir s'infiltrer sur le territoire japonais. Donc à ce moment-là, les relations entre la Corée du Nord et le Japon, donc ont été très très tendues, voire inexistantes, parce que le Japon est qualifié d'ennemi par la Corée du Nord. Donc en 2002, Pyongyang affirme et officialise, donc admet qu'elle a bien enlevé 13 Japonais qui ont été, euh, qui ont été, il y en a 5 qui ont été rapatriés et les autres ont été, enfin, sont supposés morts. Et ils avaient même donné des documents qui certifiaient leur décès, mais ces documents se sont avérés être faux. Donc, pour revenir à ça, donc ça c'est le contentieux que la Corée du Nord et le Japon ont, enfin a, pardon. Et le dernier en date, donc ça date du 16 mars, il y a des missiles qui ont été envoyés par la Corée du Nord, donc sous le territoire nippon. Et donc là, ça ravive encore une fois les tensions. Et donc c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple-là, parce que, ironie du sort, la Corée du Nord et le Japon auraient dû jouer ensemble par rapport aux qualifications de la Coupe du Monde 26, et ils n'ont pas joué ensemble, donc par rapport à ces raisons-là. Et la sœur de Kim Jong-un, donc, qui est membre de la commission des affaires de la Corée du Nord, qui s'appelle Kim Jong-jong, excusez-moi. Faut pas faire un incident diplomatique.
Attention, tu vas avoir des problèmes.
C'est pas le bon moment. Et donc c'est elle qui s'exprime le plus par rapport à cette situation-là. Donc elle a affirmé que le premier ministre japonais, donc Fumio Kishida, aurait aimé rencontrer le premier ministre, si je dis bien, le Kim Jong-un, voilà, aurait aimé le rencontrer sans condition apparente. Et ça, c'est, comment je pourrais le dire, ça, c'est un premier pas vers entre guillemets, une réconciliation. Mais il y a une condition, c'est que, même si elle n'est pas dite explicitement, c'est que Pyongyang reconnaisse et surtout balaie cette affaire-là d'enlèvement. Donc là, ça s'annonce très compliqué. Et pourquoi, pour revenir à notre sujet de départ, pourquoi le sport doit-il être politisé, oui ou non? Eh bien, ça aurait pu essayer de baisser un peu les tensions, d'aller vers un peu abaisser les tensions et surtout montrer que dans cette région-là du Pacifique, que les pays qui sont limitrophes peuvent cohabiter, peuvent se reconnaître en tant que partenaires économiquement forts, parce que le Japon a un taux de croissance qui est intéressant. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc affaire à suivre. Et le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est par rapport au CIO, donc à la Russie, qui a taxé la décision du CIO de néo-nazisme. Parce que la Russie ne pourra pas faire la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, si je m'abuse, donc à Paris. Et Vladimir Poutine avait voulu, boycotter les Jeux et aussi veut aussi organiser les Jeux de l'amitié, donc à l'issue des Jeux Olympiques. Donc, est-ce que le sport doit être politisé ou pas? En tout cas, ça prend une dimension assez... assez politique pour le coup, or que ça devrait rester juste du sport où les athlètes peuvent y s'exprimer leur talent d'ici là.
Ouais, mais de toute façon, on entend vos chroniques depuis le début de la saison
on a bien compris
que le sport est hautement politique, j'ai l'impression, demain.
Si je peux juste ajouter une dernière chose, parce que j'ai lu le Monde diplomatique le mois de mars, donc il y avait un article, donc la critique des médias en Allemagne, et les médias qui doivent être le quatrième pouvoir, et la critique se porte parce qu'il y a une, entre guillemets, comme une sorte de pensée unique. Et là, on peut mettre peut-être une corrélation avec le sport. Pourquoi le sport véhicule cette doxa-là, alors qu'elle doit juste rester elle doit juste rester comme une activité sportive et pure et simple. Voilà.
Merci. Mais légèrement instrumentalisé par les institutions politiques, dirons-nous.
Merci beaucoup, demain, pour ta chronique. Un peu de musique peut-être avant de s'écouter l'interview?
Ouais, moi je vous propose un truc, alors vous étonnez pas, hein, c'est un peu sexuel comme chanson, puisque c'est Leon Haywood et que le titre veut dire ce qu'il veut dire, I want to do something freaky to you. Voilà, ne vous étonnez pas.
C'est pour faire un lien peut-être avec l'interview qui arrive juste après.
Oui, peut-être, parce qu'après, on vous diffusera l'interview de Gaëlle Etienne, qui est sexologue du sport. Vous allez peut-être reconnaître les premiers morceaux, les premières notes de cette chanson.
I
Et vous êtes toujours à l'écoute des sportifs du lundi sur le 101.2 Radio U. Voilà, vous venez d'écouter « I want to do something freaky to you » de Leon Haywood, qui a été allègrement samplé d'ailleurs par Dr. Dre pour le titre « Nothing but a G-Tang ». On va vous passer maintenant une interview de Gaël Etienne, qui est sexologue du sport. Et non, on ne va pas parler de sexualité dans cette interview, puisque son domaine de prédilection est tout autre. Elle travaille beaucoup sur en fait les règles et ce que ça peut provoquer sur le corps féminin et notamment les athlètes de haut niveau. Et en fait, elle est venue dans nos studios le 7 mars, juste avant sa conférence qui était prévue. Et bah ouais, ça tombe bien, le 8 mars, c'était au Capucin. Et en fait, vu qu'elle a participé à l'événement organisé par les Spartiates sur la Journée nationale du sport et du handicap qui avait lieu samedi dernier, au Capucin, on s'est dit que c'était plutôt intelligent de vous diffuser cette interview, sachant que, je le rappelle, Gaëlle Etienne est la seule sexologue du sport en France.
Donc je suis avec Gaëlle Etienne, sexologue du sport, et ma première question, ça va être: qu'est-ce que c'est que ce métier, sexologue du sport ?
C'est un métier qui est spécialisé dans les particularités féminines dans le monde sportif. Donc l'idée, c'est de s'intéresser à tout ce qui concerne la femme, qui est différent des hommes, et qui peuvent les impacter dans leur pratique sportive. Donc notamment, on a le cycle menstruel, la maternité, les maladies qu'on a, par exemple les cancers, l'endométriose, etc.
Et sur Internet, j'ai pu lire un article où tu parlais notamment des règles, justement, et de comment ça pouvait affecter l'efficacité, les performances sportives. Ouais. Et concrètement, comment ça impacte les performances sportives ?
En fait, donc les règles, c'est compris dans le cycle, c'est le cycle menstruel. Et il y a plusieurs impacts tout au long de ce cycle qui durent environ un mois. On dit 24 à 32 jours. Et en fait, il y a des moments, donc au niveau des règles, où la sportive va être plus fatiguée, plus fragile, elle perd du sang, du fer, de l'énergie, etc. Il y a d'autres moments où elle est encore plus performante que de base. Donc l'idée, c'est de mesurer ses impacts, comment elle le vit personnellement, parce que chaque cycle est personnel, et pouvoir s'y adapter.
Et est-ce que tu donnes des conseils justement à comment comprendre déjà son cycle menstruel et comment ne pas se blesser, notamment dans les périodes de fatigue et perte de sang?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est que moi, j'ai plusieurs étapes, mais ce que je fais d'abord, c'est que je forme sur le cycle, j'explique ce que c'est, comment ça marche et l'impact qu'il a sur le corps. Après, on voit avec les filles, fille par fille, comment ça les impacte, pourquoi, etc. Et comment on s'adapte à elles. Il y en a qui ont besoin d'un entraînement plus doux au moment des règles, qui peuvent être beaucoup plus poussés au niveau de l'ovulation, par exemple. Alors qu'il y en a, ça ne les touche pas plus que ça. Et il faut juste faire attention à la baisse d'hormones qui est universelle et qui impacte le risque de blessure.
Et je vais revenir justement sur ton métier, du coup, sexologue du sport. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un métier qui n'est pas encore reconnu, entre guillemets.
C'est ça.
Et du coup, comment est-ce que tu t'es formé à ce métier-là qui n'était pas... je suppose qu'il n'y a même pas d'études, du coup.
Non, il n'y a pas d'études pour faire sexologue du sport. Déjà, en France, sexologue, c'est pas reconnu tout court.
Ah oui, déjà.
Donc, de base. Donc, j'ai commencé par faire de la psycho. J'ai fait mes licences de psychologie avec un petit bout de médecine pour avoir tout le côté anatomique, etc., du corps. Et après, en plus de ma psycho, j'ai payé une formation qui est faite par d'autres sexologues, en fait, en France. Et j'ai été aussi me former auprès de sexologues canadiens avec eux, donc pour voir apprendre le métier. La spécialisation sportive, elle s'est faite après, un peu des auto-formations par-ci, des petites formations rapides par-là, pour apprendre le corps du sportif, quoi. Donc, c'est vraiment un métier qui est composé de plein d'études, c'est un puzzle que j'ai fait.
Et justement, ce métier-là, du coup, il y en a très peu en France. Si je m'en souviens bien, il y a toi et peut-être personne d'autre, je crois.
Non, il n'y a personne d'autre, il n'y a que moi. Ouais. Avec ce nom de métier-là, il n'y a que moi, sexologue du sport. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent dans cette optique-là, à l'INSEP, qui ont lancé une étude. Donc, il y a des chercheurs et eux, ils sortent les études. Et moi, j'utilise les données des études et je les applique clé en main avec les solutions pour les clubs.
Et justement, comme tu es un peu la seule dans ce métier-là, enfin, entre grosses guillemets, évidemment, avec ce que tu viens de dire, mais j'en viens à ce que je veux dire, tu es beaucoup sollicité, justement.
Oui, beaucoup. Par tout type de sport, tout type de club, de structure. Ça va de l'amateur à l'ultra-professionnel, aux Olympiques. ça passe par un peu tout le monde et dans toute la France.
Mmh. Bah justement, avec l'approche des JO, est-ce qu'il y a eu un impact justement là-dedans?
Bah non, malheureusement, j'ai eu des sportives olympiques qui faisaient de la voile, donc avec les Brestoises, etc. Mmh. Mais je ne suis pas placée sur les JO. Mmh. Voilà. J'ai eu du contact avec les sportifs olympiques, mais ouais. J'attends, peut-être qu'on a encore un peu le temps.
Bah oui, on est encore en mars, hein. Il y a encore quelques mois avant que ça arrive.
Contactez-moi.
Et comment est-ce que tu travailles justement avec ces clubs sportifs? Là, c'est un peu ma curiosité qui me fait poser cette question-là. C'est tu vas au contact des sportifs dans leur vie, dans leur entraînement?
Dans leur entraînement, au sein de leur sport en fait. Mmh. Donc je commence par former les sportifs en fonction de leur âge, parce que je m'adapte en fonction de leur âge à leur cycle. Je forme le staff parce que ils connaissent pas non plus. Ouais. Donc je leur explique comment ça marche et après on voit tous ensemble quelles solutions adapter pour qui, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quel type d'entraînement on peut faire, quels exercices par exemple pour soulager les douleurs menstruelles. L'idée c'est vraiment de d'abord former et ensuite de donner les solutions.
Et j'ai vu aussi que tu étais sollicité pour faire une conférence avec Alliance Expertise et Conseil, ça.
Mm-hmm, oui.
Sur le cycle menstruel, mais cette fois-là dans l'entreprise.
C'est ça.
Ouais. Et comment est-ce que tu fais, toi, le lien entre le sport et le travail en entreprise?
En fait, il y a un parallèle énorme par rapport à la performance et aux résultats qui sont demandés. Mm. Les règles, c'est un truc que les femmes, elles ont partout et qui les atteint partout. Et la sportive, elle peut être moins performante, mais l'employée aussi. Elle peut être plus fatiguée, moins performante quand elle a ses règles. Donc le parallèle qui est fait, c'est que c'est pareil, ils ne connaissent pas leur cycle, les chefs d'entreprise, les hommes qui les accompagnent non plus. Donc former tout le monde, expliquer comment ça impacte et donner des solutions. On a réfléchi à ça avec Alliance.
Mmh. Et plus concrètement, est-ce que tu aurais des outils peut-être que tu pourrais nous donner à l'antenne? Comment adapter la charge de travail en période de menstruation? Et du coup, pareil, pour faire le parallèle avec ta spécialité plutôt, comment adapter sa pratique sportive dans cette même période-là?
Déjà, il faut suivre son cycle. Ça, c'est hyper important. Apprenez à connaître votre cycle et le suivre. Sachez où vous en êtes, si vous avez bientôt vos règles, si vous êtes à l'ovulation. Comprendre comment il fonctionne. Mmh. Donc le meilleur pour ça, c'est mon Instagram ou m'appeler. Ça marche très bien. Mmh. Mais suivez votre cycle. Et après, vous allez pouvoir voir comment vous vous sentez. Si à l'approche de vos règles, vous êtes beaucoup plus fatigué, fragile, que vous sentez que vous êtes sur les nerfs, vous devez peut-être voir avec vous-même pour ralentir les choses que vous faites, prendre plus de plaisir, plus de temps avec vous-même. Au contraire, si vous sentez qu'après l'ovulation, vous pétez la forme, c'est le moment de faire votre contrôle de maths ou un truc comme ça dans la vraie vie, quoi.
Mmh. Et justement, moi, le cycle menstruel ne m'impacte pas physiquement, littéralement. Mmh. Mais j'en viens à ce que je veux dire, c'est qu'il y a des applications pour suivre le cycle menstruel.
Oui, il y en a plein. Ouais, mmh. Y en a plein. En France, c'est bon. Il y a eu une polémique par rapport aux États-Unis parce que pour la loi contre l'avortement, donc ils voyaient les femmes qui n'avaient plus leurs règles. Mais en France, elles ne sont pas pistées comme ça. Mmh. Sinon, le bon vieux calendrier et des croix rouges. Hein.
Oui.
Ça marche super bien.
Justement, il y a aussi une autre problématique, et ça, je sens, on en avait parlé un petit peu avant d'enregistrer. Mmh. Y a une invisibilisation des personnes atteintes d'endométriose.
Ouais, l'endométriose, donc les règles qui font mal, c'est le muscle de l'utérus qui fait mal. Mmh. L'endométriose, c'est autre chose, c'est une pathologie, ça va être des blessures en fait à l'intérieur du corps qui vont faire mal. Donc l'exercice sportif, là où les entraînements spéciaux, le yoga, le pilates, va pas avoir d'effet. Là, moi, je vais rediriger, parce que ça sort de mes compétences, vers des gynécologues, des sages-femmes que je sais compétents et à l'écoute de cette maladie. Mmh. Donc, je redirige pour que la femme soit prise en charge le mieux possible.
Mmh. Et en parlant du coup de la conférence avec Alliance, de quoi vas-tu parler pendant cette conférence-là?
Du coup, je vais expliquer le cycle, ce que je fais la plupart du temps en général. Donc expliquer le cycle et après donner, donc ça va être beaucoup de chefs d'entreprise qui seront là. Mmh. Les solutions concrètes qu'ils peuvent mettre en place pour leurs employées femmes, pour qu'elles se sentent mieux. Et c'est facile, c'est vraiment des solutions hyper simples à mettre en place. Par exemple, mettre un distributeur de protection hygiénique, ça enlève une charge mentale, ça fait du bien. Mmh. Organiser des cours de yoga parce qu'ils font déjà de la Zumba, des choses comme ça, on apporte ça en plus. Mmh. Donc vraiment, je vais parler de ce que ça importe et de comment le régler. Et je vais aussi leur faire tester. J'ai un simulateur de douleur, donc eux qui vont venir contracter leurs muscles profonds. Mmh. Je vais leur faire tester ce qu'est une douleur et je vais leur demander, avec une douleur, de faire une tâche cognitive Et bon, ça va être plus dur que la normale, donc ils pourront se rendre compte.
Ouais. Très concrètement, on voit ce que ça va être.
Exactement.
Et bah justement, en plus, on peut les employeurs ont un intérêt, justement, pareil, à privilégier la performance aussi au travail.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que ils ont un intérêt, finalement, à suivre tout ça. Et est-ce que tu aurais des recommandations culturelles, de la littérature, des vidéos, des documentaires peut-être, pour approfondir sur ce sujet-là?
Ouais, j'ai un livre génial qui est adopté à tout âge. Donc en fait, c'est deux bouquins. Mmh. Donc si, pour une jeune fille qui va bientôt avoir ses règles, c'est « Kiffe tes règles » de Gaëlle Baldassari. Et pour celles qui ont déjà leurs règles bien installées, c'est « Kiffe ton cycle » de la même autrice, qui sont juste parfaits, ils expliquent ça super bien. Après, il y a tous les bouquins sur le périnée, parce que c'est très lié aux menstruations, etc. Mmh. Et sinon, du côté sportif, mon Instagram, qui est assez enrichi là-dedans, et des études de l'INSEP. Si vous allez chercher sur Google Scholar ou des choses comme ça, vous allez trouver des études, vous renseigner, chercher. C'est pas facile, mais il y a plein de belles choses.
C'est Gaëlle Etienne, ton Instagram?
C'est Gaëlle S-I-O.
S-I-O. S-I-O. Ah, S-X-O.
Voilà, okay. C'est sexo, mais sans se faire censurer.
Est-ce qu'on peut participer à cette conférence? Je crois que c'est sur inscription.
Oui, on peut s'inscrire. Il reste plein de places en plus. On a une très grande salle, donc on peut s'inscrire, venir voir ce que c'est, même si c'est par curiosité, même si on n'est pas chef d'entreprise. Venir voir les solutions présentées, ça peut donner des idées pour d'autres choses, ça peut donner des connaissances. Donc c'est le 8 mars, le vendredi 8 mars au Celtic. À partir de 17h30.
À 17h, c'est ça. Parfait. Et est-ce que tu as d'autres conférences de prévues auxquelles notre public pourra assister, peut-être sur Brest ou alentour?
Le 23 mars, on a un événement au Capucin avec l'association, je crois que c'est les Stapsiates. Je ne suis pas sûre de moi.
C'est l'asso de Staps?
Ouais.
C'est ça. Les Stapsiates.
Ouais. Super. Donc, avec eux, ils vont faire un gros événement sur le sport et le handicap. Et je serai présente pour présenter les douleurs, comment lutter contre les douleurs pour le cycle, ça concerne tout le monde. Parler un peu de l'endométriose et pour les sportifs de haut niveau aussi apporter plus de réponses.
Et ce sera ouvert à tous, je suppose?
Ouais, c'est ouvert à tous.
Ok, parfait. Et le 23 mars, tu as l'heure peut-être ?
Je crois que c'est toute la journée.
Ok, parfait. Sinon, je pense que ce sera sur
Instagram. Sur leur Instagram.
Parfait. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu voulais ajouter peut-être un dernier mot avant de nous quitter?
Merci à vous de m'avoir invité. Like to say hello, brethren and sisters of the church. In the most almighty rhythm and the spiritual base, we present to you Mr. and Mrs. Robert Dobb.
We miss our Mr. Robert Dobb. La 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 la
la la la la la la la.
We miss a Mr. Rubber Dog. Sha la 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 la
la la la la la la.
And when me say, I used to love Miss Rock and Roll and Miss Pop Music, but now it's gone. I don't really know Miss Calypso, but with Miss Rubber Dub, I like it so. When I made this Miss Joe, she was on stage, speeding crazy lyrics on the face of my friends. Even though I was shy, I came in the freestyle, and I just said hi, I'm Mr. Rubber Dub. Sha la 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 la.
Sha la 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 la.
And she said I'm Mr. Rubber Dub. Sha la 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 la.
Sha la 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 la. So what me say? From the start to the reggae got several stars, but we are Rubber Dub family. I see a grind our hips to the beat. We are grind our hips to the beat. And when we come to the dance, it's a rat-a-tom plan. When we come to the dance, it's a rat-a-tom plan. We see the DJ, we are dance, and we sing. See the selector, selecting my team.
We miss a Mr. Rubber Dub. Sha-la-la-la-la-la-la.
Sha-la-la-la-la-la-la.
We miss a Mr. Rubber Dub. Sha-la-la. La 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 la.
Sha la 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 la.
Yo, when me say, all some man right in a deep place. If you're alive and well, say yeah, yeah.
All of the sound down in a deep place. If you like, it's a song.
the dub. We sing the rubber rubber dub all night and we don't stop. We come into the sun clash, listen to the play. Some people scream, you see the top, pull it up again. Yo! Miss Rabadab, I love you so. I'm your turning on, you're my Yoko Ono. I love the way you sing, I love the way you whine. Deep and beautiful at the same time.
Sorry about a rubbing, a dubbing. Oh, what a romance in a rubbing, dubbing. I take my chance. It's a rubadab affair. A rubadab affair.
We miss a Mr. Rabadab. Sha-la-la-la-la-la-la.
Sha-la-la-la-la-la-la.
We miss a Mr. Rabadab.
Bon, ils l'ont répété suffisamment de fois, vous avez peut-être compris que c'est Miss and Mr. Rabadub, le titre de ce son de Jahil et Marina P. Vous écoutez toujours les sportifs du lundi sur le 101.1. On approche de la fin de l'émission et du coup, on a Flavie qui est arrivée. Salut Flavie.
Eh oui, salut Pilou, salut les sportifs, c'est l'heure du quiz et vous en avez parlé je crois, de la branlée que l'Allemagne a mis à la France au week-end au foot. Eh oui, les Bleus ont encaissé le but le plus rapide de leur histoire, 7 petites secondes après le coup d'envoi. Et bien du coup aujourd'hui on va s'intéresser un peu à ces anecdotes de vitesse, de rapidité, de record, même je sais pas trop si c'est clair le thème, ça touchera un peu à tout.
On écoute. Hein.
Ouais, mais avant j'avais envie de te faire découvrir aux auditeurs Flavie.
Oh non!
Trop mimi, trop mimi, trop mimi, trop mimi.
Ma voix est pas aussi chiante en vrai, j'espère, non?
Bonjour Flavie.
Oh,
ça s'est passé tout à l'heure dans la rédaction dans la... de Radio U.
Exactement. Allez, vous avez les coulisses.
C'est parti pour le son du quiz.
Et donc, on commence avec moins 2 points pour Pierre-Louis qui part avec...
Oh, mais...
Allez.
Est-ce que c'est pas une victoire pour Inès et demain, ça?
Allez, on passe à la première question. Alors du coup, on va rester dans le foot, hein, et les petites histoires de buts rapides. Quel a été le but le plus rapide, genre de toute l'histoire de toute l'humanité? Combien de secondes?
Une seconde.
Deux secondes trois.
Deux secondes.
J'attends, il y a une virgule.
Deux secondes trois.
Deux secondes 31.
Deux secondes virgule 20.
C'est moins.
Deux virgule 10.
14. Ouais.
Ah, c'est 2,1 secondes.
Oh la vache.
Ah, enfin, j'ai...
C'est extrêmement rapide. Hein.
Et en fait, alors attendez, c'était le 8 avril 2017 par l'Écossais Gavin Stokes dans un match qui opposait Maryhill à Clydebank.
Okay. Voilà. Genre en 18e division ou c'est quand même un truc
non, je crois,
intéressant
c'est, non, c'est amateur. Je crois que c'est très amateur et 2,1 secondes. Ouais.
Ouais, voilà, quand même, faut le mettre.
Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, pour la deuxième question, on va changer de discipline. À votre avis ou à votre connaissance, quel est le KO le plus rapide de l'histoire du MMA?
Ok, genre 8 secondes.
C'est 3 secondes, c'est 3 secondes.
C'est 3 secondes.
Une seconde.
C'est 3 secondes.
2 secondes.
Ça se rapproche plus de 1 seconde, ouais.
Sérieux, c'est moins d'une seconde. C'est genre 80 centièmes.
Non,
le mec, bam.
Ça se rapproche d'une seconde. C'est
1 seconde 5.
1,4,
3, 2, 1.
Ouais.
Allez.
Ah, c'est 1,13 secondes,
ah ouais.
Carrément. Et c'est
c'est plus un quiz, hein, c'est le juste prix.
Ouais. Ouais. Non, les autres questions, vraiment, ça va. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû les mettre toutes les deux ensemble. En gros, c'était en 2014, c'était lors du Warrior Challenge MMA que l'anglais Mike Garrett a balancé un high kick dans la mâchoire de son adversaire qui s'est pas relevé. Mais genre, l'arbitre, il a fait top, il a lâché un coup de pied.
Ouais, c'est génial.
Et il est tombé. Et 1,13 secondes. C'est assez impressionnant.
T'imagines,
à voir,
t'as payé ta place, tu vois. Ce qu'il dirait.
Il y en a plusieurs, non?
Oui. Normalement, oui. Même à part si c'est un grand combat.
Et le mec, il met son high kick, il sait très bien qu'il vient de marquer un record incroyable parce que, enfin, 1,13 secondes, faut le faire.
Génial.
Alors, troisième. C'est qui a trouvé? C'était toi, Inès, hein?
Ouais.
Ouais, que je te mette le point, qu'on l'oublie pas. Alors, cette fois-ci, pour la troisième question, on va parler un peu vitesse de ballon. C'est dans quelle discipline que le petit-fils de Jackson Richardson, qui se nomme Melvin Richardson, détient le record de vitesse de balle avec 133 km/h.
Alors Melvin, c'est le fils,
c'est pas
le
handball.
Pas petit. Et il fait du handball, ouais.
Ouais, handball,
il...
handball. Okay. J'ai dit handball.
C'est Pilou qui a dit en premier.
Non, c'est moi, j'ai dit en premier, handball.
Ah, du coup, je pense que t'avais la discipline en tête,
non,
en premier.
Lui, en fait, il faisait l'histoire, il commençait à rappeler son généalogie. Moi, j'ai tourné la réponse. Voilà. Merci. Deux points.
Donc,
pour moi.
Deux points pour
toi. Merci. Jackson Richardson, handballeur, okay. Son fils Melvin, formé à Montpellier, etc.
Handballeur. Petit-fils. Mais effectivement, et 133 km/h. C'est le genre de balle, tu veux pas faire un pastis avec, hein.
Ouais, 133 km/h, mais c'est quoi la vitesse moyenne d'une balle en...
C'est une très bonne question, je sais pas du tout.
Bah, les mecs, ils shootent régulièrement à 100, 110, mais en fait, passer de 110 à 133, c'est énorme.
Ouais,
quoi.
Oui,
ouais, le gap est
mais
énorme.
Mais qu'on sache un peu la moyenne, parce que oui, c'est la moyenne, c'était moins que ça encore.
Ouais,
encore
le but magique d'Elohim Prandi, je crois qu'il le rentre à 118 km/h.
Hein. Ah, comme oui, ça, d'accord, très bien, ça fait sens.
Quatrième question. Quel âge avait le Croate Veljko Rogozic, surnommé le roi en eau froide, lorsqu'il a battu le record de la plus longue distance jamais nagée en eau libre avec 225 km sans interruption?
Mais
il avait quel âge?
22.
Il avait moins que ça.
18.
27.
Non, plus. Et ça se rapproche plus de ce que disait Inès.
58.
Plus.
Ah, bah 64.
C'est le juste prix, là.
Plus. Comme 67.
Moins.
65.
Oui, il avait 65 ans. Est-ce que c'est
je suis
pas
bonne
giga
juste prix, donc du coup, ouais. Les points sont pour
non,
moi.
Non, mais le book, il avait 65 piges et il a parcouru ses 225 km en un peu plus de 50 heures.
Oh la vache.
Et il a perdu 16 kilos pendant sa course.
Est-ce qu'il était enduit de graisse de phoque, comme ils le font souvent? Ah si.
Ouais, pour glisser sur l'eau
et pas être congelé aussi. Ouais.
Et ben, alors, je crois que c'était en Italie, en mer Adriatique.
Adriatique.
Adriatique, ouais, c'est ça. C'était là-bas.
Enfin, quand même. Et alors, Adriatique, il fait bon, mais on peut
je crois que ça équivaut à près de 9000 longueurs de bassin de 25 mètres.
Ouais, j'arrive même pas à visualiser.
Ouais, bah c'est
Ça doit être tellement chiant de faire 9000 dans le même bassin.
Oui, dans le même bassin, mais là, pour le coup, en mer Adriatique,
c'est
pas mal. Tu vois des dauphins et tout.
Ouais, alors, on va donc passer maintenant à la cinquième question. Dans quelle discipline est-ce que Ron Turcotte et Secretariat ont établi en 1973 le record du monde de vitesse avec 71 km/h?
La discipline?
En descente de ski?
Non.
Bobsleigh?
Non, je vous redis, Ron Turcotte et Secretariat.
Et Secretariat?
Ça sent la connerie, ça.
On est censé comprendre quelque chose.
Non, il y a deux personnes qui ont battu, enfin deux ans. Qui ont battu ce record, Ron Turcotte et Secretariat.
En tandem, vélo tandem.
Non.
Ça aurait pu.
À qui est-ce qu'on donnerait le prénom Secretariat?
Je sais pas. Un chien, non?
Presque. Oh, presque.
Un cheval.
Mais...
Ah,
et du coup, la discipline, c'est
L'équitation.
Oui.
J'ai même pas compris que c'était un prénom. Secrétariat.
Yes. Du coup, c'est forcément du galop, quoi.
La mentalité Madrid.
Ouais. Oui, 71 km/h, ouais.
À triple galop, même.
Mais effectivement, il a appelé son cheval Secrétariat.
C'est vraiment.
Il y a des noms bizarres. Hein,
aucun lien, aucune humanité dans le prénom.
Voilà. Il y a des noms bizarres.
Je savais que ça allait vous faire bugger, j'adore. Et on finit avec la sixième question. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais deux attaquants du Stade Brestois font partie des trois joueurs les plus rapides de Ligue 1.
Y a pas
c'est qui?
Il y a Del Castillo et comment il s'appelle, Mathias Pereira-Lage.
Exactement. Ouais, Mathias Pereira, il est deuxième. Il a été flashé à 36,35 km/h. Et Romain Del Castillo, il est troisième et flashé à 36,32 km/h. Et ce podium est dominé par le Marseillais Faris Moumbania avec 36,36
km/h. C'est
même pas Kiki le premier.
Non, Kiki, il court plus, il fait des passes maintenant.
Et du coup, c'est une victoire de qui alors?
De Domain.
Encore
bravo, Domain.
Bravo.
Là, ça, c'est la montée Madrid, ça.
Encore, t'as dit? Ah, t'as déjà
encore,
gagné?
Bah, encore. Je viens, j'ai gagné la semaine dernière. Non, franchement,
Faut que t'arrêtes de venir alors.
Mais c'est la mentalité Madrid, on gagne tout le temps.
En tout cas, merci à tous pour cette très belle émission. Félicitations à Domain à nouveau pour sa victoire. Nous, on se dit pas à la semaine pro, bah oui, parce que c'est férié. Rendez-vous donc dans deux semaines.
Des vrais fonctionnaires ici.
C'est ça, on fonctionne. C'est férié, il n'y a pas d'émission des sportifs. Donc rendez-vous dans deux semaines. Le rendez-vous est pris. En attendant, on vous laisse avec les bandes musicales de Radio U. Très bonne soirée.
Salut.
Salut.